Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
À la une de l'actualité ce soir, prorogation de l'état de siège pour la 10e fois consécutive au Nord Kivu et en Ituri. Ainsi en a décidé hier l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière ici à Kinshasa. Perturbation ces jours-ci des activités agricoles dans les territoires de Walungu Sud Kivu suite au changement climatique. Des maladies affectent dangereusement les champs de manioc et les bananiers. Notre invité, c'est le médecin directeur de l'hôpital général de Beni au Nord Kivu. Docteur Franck Mouindo Fikiri s'inquiète de la résurgence de la maladie à virus Ebola en ce moment où les infirmiers sont en grève. Madame, messieurs, bonsoir. À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier jeudi a voté pour la 10e fois consécutive la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Après examen, 275 députés nationaux sur les 284 présents à la plénière ont voté oui, 8 ont voté non et un seul s'est abstenu. À l'absence de la ministre d'État de la Justice, c'est le ministre d'État du Développement Rural, François Robota, qui a présenté l'économie de ce projet de loi. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Pour l'essentiel, le ministre d'État François Robota a déclaré que les services de sécurité de la RDC sont au cours de ces dernières semaines engagés sur plusieurs fronts en vue de réduire les capacités opérationnelles des forces ennemies à la base des conflits dans l'Ituri et le Nord Kivu. En 5 mois d'état de siège, plusieurs cas de reddition des éléments des groupes armés, la libération d'axes routiers longtemps fermés, le basculement des zones de conflit vers le nord-est du pays, ce qui justifie la baisse des activités de cette traîtres du pays dans le Nord Kivu par rapport à l'Ituri où l'ennemi a basculé. Mais le contexte particulier d'une guerre asymétrique combinée à la géographie des territoires sous état de siège exige un peu plus de prudence afin de ne pas exposer des populations à des actes de représailles auxquels se livre malheureusement l'ennemi attaqué de toutes parts, d'où la nécessité d'une prorogation de l'état de siège, a soutenu François Robota. Dans leur intervention, les députés ont encouragé le gouvernement à renforcer la logistique de l'armée, à réformer les services de sécurité et à doubler la capacité opérationnelle des FARDC.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. En Ituri, pendant ces temps, tous les services de l'État qui fonctionnent aux différentes barrières à l'entrée de la ville de Bounia ont été déguerpis jeudi après-midi par le gouvernement provincial. Selon son porte-parole, ces services tracassaient les usagers de la route et percevaient illégalement des taxes de l'État. Le lieutenant Jules Ngongo affirme à Radio Kapi que certains agents de l'État ont été mis à la disposition de l'auditorat militaire. Le point de la situation avec vous, Isaac Remoyope.
Le vice-gouverneur de l'Ituri a effectué jeudi une visite d'inspection des services de l'État aux différentes barrières à l'entrée de Bounia. Il s'agit notamment de Lengabo sur les tronçons Bounia-Komanda, d'Ele sur l'axe Bounia-Kassigny et Moudzibala sur la route Bounia-Mahagi. Selon son constat, plusieurs services fonctionnaient illégalement pour tracasser les usagers des routes. Parmi ces services, il y a notamment la Direction Générale des Douanes et Assises, DGDA, la Commission Nationale de Prévention Routière, CNPR, et les Transports et Voies de Communication, Transcom, qui ont été déguerpis de ces postes. Selon les responsables des cellules de communication du gouvernement provincial, ces services sont également accusés de percevoir des taxes illégalement auprès des propriétaires des véhicules. Le lieutenant Gilles Ngongo indique que leurs agents étaient mis à la disposition de l'auditeur supérieur qui accompagnait le vice-gouverneur pour des raisons d'enquête. 4 services sont maintenus à ces barrières, dont la Direction Générale des Recettes de l'Ituri, DGRPI, l'Office Congolais de Contrôle, la Direction Générale des Migrations, DGM, et les services des renseignements dont les rôles se limitent au contrôle des personnes et de leurs biens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, les activités socio-économiques sont restées paralysées ce vendredi à Butembo. Des groupes de pression ont appelé à une journée ville morte pour honorer la mémoire des victimes des récents massacres dans cette ville. De jeunes manifestants ont dressé des barricades. Le bilan fait état de 3 policiers blessés grièvement et de quelques manifestants interpellés. Pour en parler, retrouvons à Butembo Grâce à Mouzati.
Des jeunes manifestants ont brûlé des pneus et placé des barricades, notamment dans la cellule Mutianga en commune de Bulengira, à Katwa, Andjiapanda et à Kalifa Moussoussa dans la périphérie sud de la ville. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la route et rétablir l'ordre public en tirant à l'air pour disperser les manifestants. Des jets de projectiles ont été signalés dans certains endroits. Au centre commercial, tous les commerces sont restés fermés. Des magasins, officines pharmaceutiques, des stations-service et même des banques n'ont pas ouvert leurs portes. La circulation a été également timide dans les différentes artères du centre commercial. Des policiers ont été déployés dans tous les endroits stratégiques de la ville. Le commandant intérimaire de la PNC dans la ville avance un bilan de 3 policiers blessés par des projectiles. Ils sont pris en charge dans une structure médicale de la place, indique-t-il. Il parle également de 7 jeunes, dont 2 mineurs, interpellés. Ils sont accusés d'avoir notamment cassé les vitres du véhicule d'intervention de la police. Toutefois, le commissaire supérieur principal, Paul Ongoma, affirme que la situation est sous contrôle. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au Kasaï central, des nouveaux membres du bureau de l'Assemblée provinciale seront élus demain samedi. Le dépôt des candidatures s'est achevé hier jeudi. Parmi les candidats aux différents postes, il y a 3 femmes. Explication à Kananga de François Kadima.
La liste pour ces différents postes a été affichée par les bureaux d'âge de l'organe délibérant du Kasaï central. 2 candidats s'alignent au poste de président, notamment Stéphane Mwanda et Jérôme Montou. Parti de la question à la suite d'une pétition, Simon Toumba a décidé de s'engager dans la course à la vice-présidence avec comme challenger Jim Mukenge et Marcel Tshipepele. Joseph Kalamba revient aussi comme candidat rapporteur. Willy Wishi et Bob Kayombo lorgnent également cette place. Dans la course, l'on retrouve une femme comme candidate au poste de rapporteur adjoint. Rose Kapinga va se frotter à Jacques Ngalamouloumé qui revient également et Sébastien Mukuna. 2 autres femmes se sont positionnées comme casteurs. Denise Malagi et Béatrice Kapinga seront face à Félicien Capiola. Notons que la campagne électorale se déroule ce vendredi au siège de l'Assemblée provinciale. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, au Sud Kivu, la femme rurale est confrontée ce jour-ci aux aléas de la pandémie du coronavirus et au changement climatique. Les activités agricoles sont en perte de vitesse ce jour-ci dans les territoires de Walungu. Les champs ne produisent plus à cause des maladies qui affectent dangereusement le manioc et le bananier. Jean Kassami Baralibirou a assisté ce vendredi à la journée de la femme rurale à Mushinga. Voici son reportage.
C'est à Mubumbano, dans les groupements de Mushinga, que nous avons rencontré les femmes et les filles rurales que l'ONG locale, les 20 des femmes du Sud Kivu, LDF en sigle, a conviées aux cérémonies de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Ce sont ces femmes qui bénéficient de l'encadrement des LDF sur les plans socio-économiques pour leur autonomisation, pour contourner les difficultés liées au changement climatique que nous avons évoqué si haut et à la pandémie du coronavirus. La femme et la fille rurale développent de nouvelles approches en intégrant des variétés saines de manioc, de bananiers et de haricots volubiles. Les 20 des femmes du Sud qui veulent lutter contre la dépendance en vivre en provenance de la ville de Bukavu. LDF développe les projets d'élevage des crédits rotatifs et couture en vue de permettre à la femme rurale de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. De Walungu, Jean Kassami, en direct de Karagwa.
On enchaîne avec le Maniema où le gouverneur intérimaire a suspendu le ministre provincial des Finances et celui des Mines. Afani Inrissa Mangala leur reproche un certain nombre de griefs, comme l'explique Akindu Florence Kizalunga.
Dans son premier arrêté, le chef de l'exécutif provincial ad intérim reproche à Lumumba Dieke, ministre de Finances, le fait de pouvoir s'immixer dans la procédure de vente de plaques minéralogiques en violation de l'édit fixant les règles de perception de droits, taxes et redevances provinciaux. Selon toujours Afani Idrissa Mangala, cette immixtion a occasionné des pertes énormes de produits de vente de plaques minéralogiques du fait de l'écart entre les sommes par lui illégalement perçues et celles réellement déposées à la banque. Dans son deuxième arrêté concernant le ministre de Mines, Mupoka Ebembe Gédéon, le gouverneur intérimaire lui reproche d'avoir manifesté l'irrespect aux devoirs de collégialité et de solidarité gouvernementale, notamment dans la cacophonie entretenue dans la mise en œuvre du système de libre circulation des mines dans les provinces de l'Est de la RDC, officiellement autorisé par le ministre national des Mines. Afani Idrissa craint que ces comportements ne risquent à la longue de semer l'anarchie dans les bonnes fonctionnement du gouvernement provincial du Maniema. Leurs intérims sont assurés par le ministre de Budget pour les Finances et le ministre du Plan pour le ministre de Mines. Kindo. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
J'ajoute que les ministres incriminés qui ont été contactés par Radio Okapi ont promis de s'exprimer plus tard. Revenons un instant au Nord Kivu où l'agence américaine de développement USAID a remis jeudi après-midi à l'OVG Goma 200 kilos de matériel scientifique pour la surveillance des volcans qui surplombent la ville. Il s'agit d'un don du service géologique des États-Unis d'Amérique. Le directeur de l'OVG a salué ce geste. Adalbert Mwindo a mis la population en garde contre le vol de ce matériel. Ses propos ont été recueillis par Papi Okito du journal en ligne Écho d'Opinion.
Ici, nous avons des serveurs, des câbles, d'autres matériels informatiques qui vont nous permettre d'installer un réseau qui va nous permettre d'avoir des données en temps réel à l'observatoire. J'ai toujours rappelé à la population de Goma et des environs que le risque est volcanique. Nous devons nous tous nous appuyer main dans la main. Parce que lorsqu'ils volent, lorsqu'ils sabotent, ils vandalisent nos matériels, ils ne mettent pas seulement l'OVG à risque, mais tout le monde à risque. Les gens disent que non, mais dans ces matériels, il y a de mercure et autre chose, pendant que soit c'est un bulle d'eau qui est à l'intérieur de l'équipement qui nous permet de mettre à niveau l'appareil. Mais ces équipements sont des fois sabotés par la population. Et donc j'appelle à la population de nous aider à protéger les matériels que l'USAID vient de nous offrir aujourd'hui.
Revenons à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été saisi hier jeudi sur la taxe RAM par le programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation. Son coordonnateur a indiqué que ce programme est la seule organisation crédible qui peut parler au nom de la population sur la base de leurs consultations concernant cette taxe. Ludovic Kalingai est au micro de Jocelyn Poy.
Nous avons saisi le Premier ministre ce jeudi pour lui faire part de notre consultation, parce que vous vous rappelez que nous avons organisé nos consultations et que nous sommes la seule organisation crédible à parler au nom de la population sur cette affaire RAM, parce qu'il y a des fiches d'enquête que nous avions eu à introduire. Nous avons parlé de RAM en question avec cette population et elle a parlé de ses desiderata. La population n'avait pas d'informations sur RAM, elle ne connaissait pas à quoi ça servait, où vont les crédits, à quoi ça va servir, en quoi est-ce que ça va aider la population. C'est pour cela que sur base des avis de la population, nous avons fait des propositions que nous avions déjà introduites au niveau de la RPTC qui gère RAM. Les discussions, nous sommes en pourparlers pour voir ce mécanisme, surtout d'allègement de la tarification, le mécanisme de la redevabilité et tout cela pour que nous puissions créer une interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Vous voyez, donc c'est à ce niveau-là, la population n'avait jamais besoin de la suppression de RAM. Ceux qui pensaient de la suppression, c'est ceux-là qui n'avaient même pas lu le plan national numérique.
Actualité internationale.
En Afghanistan, des explosions se sont produites à l'heure de la grande prière de ce vendredi matin dans une mosquée chiite de la ville de Kandahar, au sud du pays. Un responsable taliban parle d'un attentat suicide. Les images sont pour l'instant impossibles à authentifier, mais celles qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des corps ensanglantés étendus sur le sol à l'intérieur de la mosquée. Et puis, l'avenir de la mission des Nations Unies en Haïti, dont le mandat se termine ce vendredi, et en équilibre dangereux à New York. Jeudi soir, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas permis de le renouveler, les diplomates n'étant pas tombés d'accord sur les détails du texte de la résolution à adopter. Les États-Unis d'Amérique, qui gèrent quotidiennement le dossier haïtien aux Nations Unies, ont proposé une reconduction pour un an, mais la Chine ne l'entend pas de cette oreille.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu. Docteur Franck Mouindo Fikiri s'inquiète de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette ville en cette période où les infirmiers sont en grève. Il s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Franck Mouindo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni, dites-nous, est-ce que aujourd'hui l'hôpital général de référence de Beni est-il prêt à recevoir des cas?
Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous sommes dans les préparatifs depuis le 8. Nous étions évidemment surpris de la résurgence, mais les niveaux de préparatifs à ces niveaux sont tels que nous sommes à même actuellement de recevoir certains cas qui peuvent éventuellement arriver, qui sont d'ailleurs en train d'arriver. Nous sommes en train de les prendre en charge actuellement dans les isolements provisoires qui sont installés actuellement à l'hôpital général de Beni, en attendant que le centre de traitement en cours de construction puisse être opérationnalisé.
La maladie à virus Ebola refait surface pendant que les infirmiers sont en grève. Êtes-vous inquiet de cette grève des infirmiers lancée il y a bien longtemps?
C'est une grande inquiétude que nous avons par rapport à ce contexte-là. Effectivement, s'il va falloir que les staffs infirmiers et même les staffs médicaux, s'il va falloir qu'ils restent et cadrent dans leur mouvement de grève, ça va très impacter très négativement sur cette riposte qui, du reste, c'est une riposte qui doit être musclée au départ pour aboutir à des résultats ou pour mettre des résultats sur table. Il faut vraiment un consensus et une grande partie de la volonté de tout et chacun, notamment les staffs infirmiers et le corps médical, tous les corps soignants, vraiment doit arriver à se dépasser par rapport au mouvement de grève pour essayer de booster d'une façon musclée cette épidémie.
Et pensez-vous que cet état des choses est préoccupant?
C'est très préoccupant, monsieur le journaliste, parce que les revendications des grévistes restent toujours là. Les revendications n'ont pas encore trouvé guère de cause. C'est une occasion aussi pour faire une interpellation au gouvernement, de pouvoir aussi avancer avec les staffs. Les staffs peuvent avoir une bonne volonté de pouvoir mettre leur contribution à l'action, mais il faudra aussi que le gouvernement, cette fois-ci, voit un peu dans quelle mesure ils peuvent accompagner les staffs dans cette situation ici, étant donné que tout le monde, nous devons nous souder pour vraiment éradiquer cette épidémie qui, du reste, a causé encore des désastres dans cette communauté de Beni. Il ne faudrait pas que l'on en arrive encore à ce niveau pour une raison ou une autre, surtout par rapport au mouvement de grève. Et nous pensons que tout le monde va mettre un peu de sa volonté pour que les histoires marchent.
Selon vous, la grève des infirmiers peut impacter négativement sur la prise en charge des malades confirmés d'Ebola?
Effectivement, si le corps soignant n'est pas motivé, qui peut alors prendre en charge les malades? Et sur le plan surveillance, c'est tout un arsenal, c'est toute une ressource humaine compétente qui doit être activée pour encadrer ou accompagner toutes les mesures de la riposte. Donc, s'ils sont démotivés, sûrement ça va impacter négativement la riposte.
C'est quel message lancez-vous aux infirmiers prestants, mais aussi aux autorités?
Par rapport aux infirmiers prestants, même pas les infirmiers seuls, les médecins aussi, nous sommes dans le même paquet parce qu'aucune revendication des grévistes n'a été prise en compte jusque-là. Mais nous en appelons aux uns aux autres de revenir à la conscience professionnelle et au serment prêté. Nous pensons que si nous mettons tout et chacun un peu d'eau dans son vin, nous pouvons arriver à nous dépasser et nous mettre au service de la communauté et soigner les malades. Et quant aussi au gouvernement, de pouvoir aussi considérer cette bonne volonté déjà qui est là, qui s'est manifestée déjà, parce que les staffs, les corps soignants, vraiment sont en train de travailler sur le terrain de manière impeccable.
Docteur Franck Mouindo, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu, Dr Franck Mouindo Fikiri, s'inquiète de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette ville. En cette période où les infirmiers sont en grève, il s'entretenait avec André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Vous avez le loisir de retrouver ce journal sur www.radiokapi.net.